France Inter.
Aujourd'hui, la France, nouvelle Eldorado des data centers, racontée par...
Fanny Lopez, historienne de l'architecture et des techniques, professeure à l'ENSA Paris-Malaquais.
Et Erwan Manac, journaliste en charge de l'énergie pour le Média Reporter.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Le numérique s'est inventé une mythologie aérienne avec le cloud. On parle de nuages et d'immatériel avec nos photos qui montent vers le ciel et nos mails qui flottent quelque part entre deux serveurs invisibles. Plus c'est loin et plus ça semble léger. Pourtant, derrière chaque geste numérique se dresse une architecture très terrestre, avec des bâtiments sans fenêtres, bardés de câbles, de climatiseurs et de groupes électrogènes. Des forteresses électriques qu'on appelle donc les data centers. Ce sont eux qui tiennent le monde connecté debout. Sans eux, pas de cloud, de streaming, de réseaux sociaux ou d'intelligence artificielle. Car l'IA, que l'on imagine souvent comme une abstraction pure, repose sur une puissance de calcul gigantesque, chaque requête, chaque image générée, s'appuyant sur ces usines numériques invisibles. En région parisienne, certains de ces sites consomment autant d'électricité qu'une ville entière. Des quartiers voient surgir ces infrastructures discrètes, parfois à quelques mètres des habitations. Le numérique que l'on imaginait propre et dématérialisé révèle donc soudain son poids industriel, car un data center, c'est d'abord une usine de calcul, de stockage et de refroidissement, une industrie électrique dont la première matière première est l'énergie. À l'échelle mondiale, la pollution liée à l'écosystème numérique est désormais comparée à celle de secteurs industriels majeurs. Certaines estimations avancent même que si le web était un pays, il figurerait parmi les plus gros émetteurs de CO2 de la planète. Derrière la promesse de fluidité, d'instantanéité et donc désormais d'intelligence augmentée, se cache une géographie très concrète de réseaux saturés, de conflits d'implantation, avec des arbitrages politiques et de la dépendance énergétique. À mesure que nos vies se numérisent, leur rôle devient stratégique, économique, écologique, bien sûr, et politique. Et c'était cette histoire que nous allons vous raconter.
Il n'y a aucun autre pays européen qui produit autant d'énergie décarbonée en surplus de sa consommation. Donc nous, quand on fait des data centers en France, c'est pas pareil aux États-Unis, parce qu'aujourd'hui, ces data centers, ils tournent beaucoup avec du pétrole et du gaz. Quand vous allez faire des data centers chez nous, bah c'est simple, c'est des data centers propres.
Le président de la République Emmanuel Macron, c'était il y a un an tout juste, le 10 février 2025. Fanny Lopez, Erwan Manac, bonjour.
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 Fanny Lopez, vous êtes en duplex des studios de Quimper à Issy-Brézizel. Erwan Manac, quand vous entendez le président de la République dire qu'il n'y a pas de souci à se faire, les data centers français sont propres, j'ai vu un petit sourire se dessiner.
Alors il y a beaucoup de choses à dire. Bon, d'une part, il a raison, c'est-à-dire que on produit beaucoup d'électricité et elle est en très grande majorité décarbonée parce qu'elle vient du nucléaire et, ouais, et de l'uranium. Mais cette électricité, on en a besoin impérativement pour faire rouler nos voitures, pour chauffer nos maisons. On en a besoin pour décarboner l'industrie et c'est un besoin qui est urgent. Et la disponibilité de cette énergie, c'est en fait une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire qu'on a pris du retard sur cette décarbonation de l'économie qui est urgente pour le climat. Et aujourd'hui, la trajectoire, mettre cette électricité sur un plateau d'argent pour les big tech, notamment américaines, mais mondiales, pour qu'elles viennent installer leur centre de données, c'est sacrifier la transition énergétique.
Donc, derrière l'apparente propreté de ces data centers, en fait, on a ce qu'on appelle des effets rebonds, avec des usages qui, eux, sont loin d'être propres.
Oui, concernant la France, il y a une concurrence pour cette électricité entre ce qui est aujourd'hui carboné, l'industrie, le transport, le chauffage résidentiel, et donc les data centers, puisque l'électricité, c'est vrai qu'en France, elle est quand même largement décarbonée, quasiment totalement décarbonée. Et donc là, c'est un problème de concurrence et d'échelonnement des priorités qui est un très gros problème. Hein. C'est pas seulement une question de temps, c'est aujourd'hui la possibilité de faire la transition écologique qui est en question. C'est un vrai très gros problème. Après, il y a un autre enjeu à l'échelle planétaire qui est effectivement que partout, dans beaucoup d'endroits, notamment là où beaucoup de data centers sont implantés comme aux États-Unis, l'électricité est majoritairement faite à partir d'énergie fossile.
Fanny Lopez, pourquoi cette question de l'implantation précise des data centers, et donc on s'intéresse aujourd'hui en particulier au cas de la France, est devenue un enjeu majeur d'un point de vue à la fois écologique mais aussi démocratique?
Alors, je dirais, et puis on l'a bien entendu avec le discours en introduction, que nous sommes dans un moment d'accélération qui correspond aussi à celui de l'électrification des usages, donc les data centers, nouvelles grandes infrastructures électriques viennent s'insérer dans ce grand réseau électrique, très forte actualité politique, sommet contre sommet de l'IA, loi de simplification qui facilite en France le développement des data centers qui sont désormais des projets d'intérêt national majeur. Je dirais que c'est un enjeu démocratique et que, enfin, l'enjeu démocratique, c'est aussi de rappeler que le numérique, ce n'est pas juste de la technique. C'est une façon d'organiser les ressources, l'espace, la société. Ce sont des choix technologiques. Quand on parle d'enjeu démocratique, on rentre souvent par la question de la souveraineté. On parle beaucoup de souveraineté numérique aujourd'hui sur nos ondes. Et peut-être un des enjeux, en effet, c'est de politiser la question de la souveraineté, puisque aujourd'hui, le modèle numérique, c'est celui d'un capitalisme monopolistique. Quelques entreprises privées américaines contrôlent une part énorme de l'économie numérique mondiale. Et juste quelques chiffres pour rappeler ça, hein, je crois que c'est 83% des dépenses de cloud européens qui se font vers des entreprises US. Les fournisseurs européens tiennent à peu près 15% du marché du cloud. Enfin, c'est à l'échelle du monde, l'Europe prononce ces termes de souveraineté, mais il y a encore beaucoup à faire. Et puis aussi rappeler que la souveraineté, c'est pas juste la volonté de reprendre peut-être le contrôle sur ces actifs stratégiques que sont les données, mais c'est peut-être aussi repositionner le débat autour des objets. Et puis on parle assez peu du modèle. Donc quel est le modèle de notre système technique numérique, puisque celui qui s'est répandu aujourd'hui, malgré des mises en garde depuis 20 ans, 30 ans, c'est celui des hyperscalers, des GAFAM, qui est un modèle, je dirais, plutôt dystopique. On parlera peut-être des conflits d'usage, de l'ébriété énergétique, de l'hyperconnectivité, un modèle qui fonctionne aussi beaucoup sur la monétarisation de la donnée. Donc c'est aussi ça, c'est comment reprendre la main sur une filière qui apparaît parfois un peu hors de contrôle, dopée par la finance, est-ce qu'on peut limiter les usages dans un moment aussi, et ça c'est vraiment aussi celui de l'actualité politique mondiale, d'une exaltation de la technique, de la puissance et d'une idéologie parfois qui frôle complètement et qui est une sorte de technofascisme, puisque ce sont aussi des termes très présents dans l'actualité.
Erwan Manak, nous sommes donc entrés dans une nouvelle ère qui va à une vitesse fulgurante quand même.
Ouais, on bascule totalement. C'est ça qui est difficile de se représenter. On bascule dans un nouveau régime énergétique. Ces centres de données, parmi les projets qui ont été dans les tuyaux, notamment après l'annonce de Emmanuel Macron, c'est 1 gigawatt-heure de consommation, c'est l'équivalent d'un réacteur nucléaire pour 8 d'entre eux. On bascule totalement à l'échelle. Et en plus, ça ne va faire qu'augmenter. Il y a d'autres ordres de grandeur comme ça qui sont colossaux. Et tout le monde le dit. C'est-à-dire que même aujourd'hui, dans une communication très récente, le gestionnaire de l'infrastructure, RTE, l'infrastructure électrique, dit là, on a dans les cartons, en termes de demande de raccordement, l'équivalent du triple de ce que consomme aujourd'hui l'industrie en termes d'électricité, et que c'est une course à l'électrification, c'est RTE qui le dit, et le système de réservation est à bout de souffle. Il faut changer la manière d'attribuer ces gigawattheures. Il y a 30 gigawattheures aujourd'hui, c'est l'équivalent de la moitié du parc nucléaire qui sont candidats à être raccordés au réseau, et c'est aussi l'équivalent de la totalité à peu près de ce qu'on produit en électricité photovoltaïque. Donc on est dans ces ordres de grandeur là.
Fanny Lopez, quand on parle de data center aujourd'hui, on a l'impression que c'est un phénomène très récent. Est-ce que vous pourriez nous dire à partir de quand finalement ces infrastructures sont apparues et à quel moment elles sont devenues centrales dans notre organisation numérique ?
Alors, avant d'avoir des bâtiments dédiés, on pourrait dire qu'entre les années 60 et 90, c'était plutôt des salles informatiques qui hébergeaient de gros ordinateurs, les mainframes dans des universités, les banques, des institutions gouvernementales, avec encore peu d'interconnexions. Et on a un tournant dans les années 90 avec la naissance du web commercial, où apparaissent des objets dédiés, des data centers, alors qu'ils soient d'entreprise ou de colocation, c'est-à-dire qu'ils permettent à plusieurs acteurs d'avoir leurs serveurs hébergés en un seul lieu, et donc vraiment un marché qui se met en place dans ce tournant des années 90, avec aussi la création des points d'échange internet dans les grandes métropoles, Londres, New York, Washington, Amsterdam, Francfort, qui sont les carrefours stratégiques du web, souvent dans des places financières, et donc le data center apparaît comme une entité spatiale qui va centraliser certains services et calculs qui avant étaient dispersés. Il va permettre de gérer des milliers puis des millions d'utilisateurs et de services en continu, et vraiment il faut se souvenir hein, qu'au début des années 90, les grands monopoles du web étaient encore inexistants. L'emprise territoriale, spatiale de ces infrastructures était assez imprévisible. Hein, et d'ailleurs, la décentralisation des données était une perspective possiblement aussi crédible que son ultra-centralisation. Et là, on peut relire Félix Tréguier, l'Utopie Internet. Rappelez aussi, hein, c'est des chiffres, on est vraiment dans une histoire récente. Hein, la société Amazon, elle est introduite en bourse en 97, Google est créé en 2000, Facebook en 2004. Et le premier centre de données, pourrait-on dire, alors qui s'appelait aussi Hôtel Télécom, historiquement, il est construit en Europe. En 89, c'est Telehouse à Londres, dans le quartier des Docklands. Et si on veut parler aussi urbanisme et géographie, hein, c'est le géographe Bruno Morizet qui a montré l'émergence avec les data centers d'un marché immobilier spécifique au tournant des années 90, qui a d'ailleurs joué un rôle fondamental dans la rénovation et la revitalisation d'un certain nombre de quartiers urbains, via la reconversion de grands sites industriels, d'entrepôts alimentaires et logistiques, dans des grandes villes, et puis les principales grandes entreprises du secteur, hein, comme Interxion, Equinix, Digital Reality, qui ont été créées dans les années 2000, hein, étaient aussi perçues, hein, comme des fonds d'investissement immobilier. Rappelez ça, hein, aussi, le centre de données, c'est aussi un produit immobilier de très haute rentabilité financière, et on a progressivement un changement d'échelle aussi des objets, puisque à partir de 2005-2006, avec le stockage et le calcul à distance, hein, vous parliez du cloud tout à l'heure, du nuage, le modèle se transforme, se démultiplie sur tous les territoires. On en a autant dans les centres urbains denses que dans des périphéries urbaines, que dans des zones rurales. Donc c'est une sorte de très grand réseau interconnecté avec beaucoup de redondance, les données qui sont stockées, l'interconnexion, etc. Et avec l'IA générative, alors là aussi, voilà, on sort des usages classiques, disons, du numérique, et on est face aussi à une nouvelle génération d'objets beaucoup plus consommateurs et qui nécessitent beaucoup plus de puissance.
Et donc on est passé effectivement à une industrialisation massive du stockage, hein, et du calcul. Erwan Manak, il y a un mois, votre média reporter publiait une carte des sites des data centers en projet en France, réalisée par un collectif marseillais. Le nuage était sous nos pieds, c'est le nom de ce collectif. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette carte ?
Déjà, ça peut paraître simple à faire. En fait, c'est loin d'être évident. C'est-à-dire qu'ils ont dû, c'est un travail de fourmi qu'ils ont dû conduire data center par data center en croisant des sources ouvertes, que ce soit les études environnementales, la communication sur les sites spécialisés, les communiqués de presse, etc., pour essayer de tout simplement de situer. Vous parliez en introduction de la réalité physique de ce cloud, ça contribue à se la représenter, c'est de la situer et quantifier, et également répertorier les résistances qui se tissent un petit peu localement, un peu partout. Cette information, bon, il y a beaucoup de communication autour des data centers, mais en fait, pas mal d'opacité. C'est-à-dire que déjà, les fabricants communiquent assez peu sur la réalité de la consommation et des performances de leurs serveurs. Donc, on a du mal à savoir ce que consomme, ne serait-ce qu'une requête, par exemple, ChatGPT, c'est des études qui sont faites. Et encore moins l'impact réel que vont avoir les différents data centers. Il y a pas mal d'écrans de fumée de communication. Et puis, même le gouvernement, dans son plan, sur notamment des sites clés en main qui sont annoncés, il livre des cartes avec des implantations à l'échelle régionale. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où vont s'implanter les data centers. Il y en a quelques-uns qui ont été annoncés. Il y en a une grosse vingtaine sur les 60 sites clés en main qui ont été annoncés. Donc, il y a un défaut d'information qui est quand même terrible.
Donc, quand on essaie de faire une carte, on en arrive à quel chiffre aujourd'hui ?
Leur chiffre, c'est 351 data centers actuellement et une cinquantaine de projets en cours, plus ou moins avancés, sachant qu'il faut garder à l'esprit qu'on a là aussi un basculement, comme on le disait, dans l'échelle. C'est pas seulement le nombre de data centers que leur gigantisme qui est à l'heure actuelle.
On va écouter une des voix justement de ce collectif marseillais. Le nuage était sous nos pieds. C'était en décembre 2024.
À Marseille, où j'habite, nous avons en fait des infrastructures numériques vraiment très présentes. Et nous avons commencé à mener une enquête au sein d'un collectif que nous avons appelé Le nuage était sous nos pieds. Et nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure de l'enquête que Marseille était en haut lieu du numérique avec une douzaine de data centers aujourd'hui en place et plusieurs autres en construction, que c'était un point stratégique d'arrivée des câbles sous-marins transcontinentaux parce que c'est par là que les signaux passent. Et nous nous sommes rendus compte qu'en fait, sur Marseille, il y avait un réel impact de ces infrastructures-là. Les data centers pompent de l'eau qualité potable et l'utilisent. Elles rejettent dans l'air des pollutions variées comme les gaz fluorés dus à leur fluide frigorigène pour la climatisation.
Voilà, un membre de ce comité marseillais, le nuage était sous nos pieds, Erwan Manak. Pourquoi Marseille est devenue une porte d'entrée vraiment pour ce flux numérique et pourquoi ces infrastructures attirent autant la ville ?
Historiquement, comme l'expliquait, il y a la présence des câbles sous-marins qui arrivent ici. Ça nous ramène encore une fois à la réalité physique du numérique. Et alors aujourd'hui, vu la consommation d'espace de ces gigantesques usines à serveurs, elles ont tendance à s'éloigner des villes, mais sinon elles étaient vraiment implantées là où il y avait le réseau électrique pour se raccorder. Et alors le problème en plus à Marseille, c'est que mais comme partout ailleurs, mais c'est crieur à Marseille, c'est que cette électricité, on en a besoin. À Marseille, on en aurait besoin pour brancher les gigantesques bateaux de croisière qui tournent au fioul pour lorsqu'ils sont hackés et qui empoisonnent l'air des Marseillais. On en aurait besoin pour faire fonctionner le réseau de bus de la ville. C'est ça la difficulté de ce sujet, c'est que l'électricité semble aujourd'hui abondante en France, mais on en a urgemment besoin pour la transition énergétique.
Ces infrastructures, en tout cas, ne se contentent pas d'exister physiquement, elle transforme aussi profondément les territoires. C'est ce que nous allons voir ensemble dans quelques minutes et puis vous répondrez aux messages qui arrivent pour vous sur franceinter.fr.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
À quoi va ressembler l'extension de ce data center ?
L'extension, ce sont les bâtiments spécifiques pour les générateurs et les moteurs diesel associés. Et pour évacuer les fumées des moteurs diesel, il y aura des cheminées de 18 ou 19 mètres de haut. Les gaz qui en sortent ne sont pas à respirer. Pour une partie au moins, il n'y aura aucun filtrage. C'est d'autant plus agaçant qu'on est sur l'une des entrées de la ville et que dans l'axe, vous avez l'église. Donc quand vous rentrerez dans Vissou, au lieu de voir cette grande allée avec des arbres et au bout l'église classée du XIIe siècle, vous verrez les cheminées du data center.
Voilà, extrait dont on n'arrête pas l'écho, c'était en novembre dernier, Philippe Defruyte, conseiller municipal de Vissou, c'est donc dans l'Essonne. Fanny Lopez, vous êtes avec nous en duplex des studios d'ici à Quimper, vous êtes historienne de l'architecture et des techniques. Erwan Manak, vous êtes en studio à Paris, journaliste à reporter. On parle donc avec vous des data centers sur le sol français. Erwan Manak, ces cheminées de 18 mètres de haut, ça c'est du concret, hein. On parlait de la réalité physique de ces data centers.
Oui, alors les data centers fonctionnent à l'électricité, mais par contre, vu que c'est des serveurs qui doivent tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour pas que la donnée se perde, c'est bien ça qu'il faut avoir en tête, ils sont équipés de dizaines, voire de centaines de groupes électrogènes pour pouvoir fonctionner en cas de panne. Alors, la panne, c'est pas une hypothèse complètement farfelue, elle a existé très proche de nous, très récemment en Espagne, et puis il faut se souvenir qu'en 2022, c'était pas il y a un siècle, on a préparé les industries à se défausser, à se débrancher du système électrique en cas de problème en hiver. C'était il y a très peu de temps, c'était chez nous. Par ailleurs, ces groupes électrogènes, ils fonctionnent chaque mois pour plusieurs heures par mois pour tourner, pour être testés. Et ça émet beaucoup de particules dans l'atmosphère et ça a une vraie pollution très réelle.
Donc, on a ces belles cheminées qui se rappellent à notre bon souvenir. Fanny Lopez, vous évoquiez rapidement tout à l'heure la loi de simplification de la vie économique qui classe désormais certains data centers comme projets d'intérêt national majeur. Concrètement, qu'est-ce que ça change dans la manière dont ces infrastructures peuvent s'implanter sur un territoire aujourd'hui ?
Alors, ce sont essentiellement des facilitations d'accès. Enfin, on a eu des exemples et c'est pour ça, je crois que c'est aussi intéressant de regarder à l'international, puisque Dublin, l'Irlande, a fait ça pendant de nombreuses années. Amsterdam aussi, avec les Pays-Bas, avant de revenir un petit peu sur tout ça et de faire un moratoire aujourd'hui. Donc, on avait eu des lois de simplification d'installation qui relèvent en gros d'une facilitation d'accès aux fonciers, qui prévoit de calculer un petit peu en amont les besoins électriques de ces opérateurs pour pouvoir mettre à disposition l'électricité nécessaire. C'est identifier des sites où voilà, l'électricité sera disponible, le foncier sera disponible et sur lesquels on aura aussi possiblement de la défiscalisation.
Mais ça veut dire que ça déplace aussi la décision vers l'État plutôt que vers les territoires ?
Oui, d'une certaine façon, oui, ce sont des politiques nationales, hein, en effet. Alors après, il faut voir ce qui se passe dans les territoires, et c'est là où parfois il peut y avoir des sortes de disjonctions. C'est ce qui s'était passé notamment à Amsterdam. Hein. La ville d'Amsterdam a fait un moratoire en 2019, et c'est nos amis aussi de la Quadrature du Net qui ont appelé à ça l'année dernière, puisque malgré ces incitations nationales, sur les sites, on se retrouvait dans des situations de conflit d'usage. C'est la même chose à Stockholm. Le réseau électrique de la ville de Stockholm n'était pas en capacité de pouvoir alimenter et de pouvoir faire face à toute la demande. Donc derrière, c'est aussi les opérateurs réseau, puisque voilà, on a beaucoup parlé de l'électricité, mais en effet, hein, le numérique a un double, c'est le réseau électrique, et derrière, il faut pouvoir alimenter tout ça.
Ouais. Donc Erwan Manak, les collectivités peuvent toujours s'exprimer, mais c'est vrai que la marge de manœuvre est quand même plus faible par rapport à ces projets qui sont donc, on l'a compris, hein, présentés comme stratégiques au niveau du pays, et pourtant, ce sont ces territoires qui supportent l'impact écologique aussi de ces data centers aujourd'hui, hein, et il est bien réel.
Oui, il est tout à fait. Et alors, ce que me disent aussi les militants du nuage était sous nos pieds quand ils ont constitué cette cartographie et tenté de cartographier aussi les résistances, c'est la vitesse à laquelle les choses vont. On est dans un point de bascule avec des décisions qui vont engager la France sur le long terme. Et à la fois, c'est un sujet qui est nouveau. À prendre en main d'un point de vue citoyen et militant. À la fois, c'est un sujet qui est urgent. Et même que ce soit pour les collectifs militants ou pour les élus ou pour les gens qui s'intéressent à la vie locale. Donc là, le déficit démocratique, le passage en force, il est quand même dommageable et il serait urgent. Bon, d'une part, le moratoire, il y a beaucoup de gens qui le demandent dans la communauté scientifique, chez les ONG. Faire une pause.
Pour évaluer justement les impacts, parce qu'on le sait, ça engage les territoires sur de très longues périodes, hein, l'installation de ces data centers.
Oui, et à plus grande échelle, il y a aussi des questions sociétales qu'il faut se poser. Quels usages veut-on prioriser ? Cette électricité-là, elle ne sera pas en quantité infinie. Est-ce qu'on veut accélérer les transitions dans les transports, etc., comme je l'ai dit tout à l'heure, ou est-ce qu'on veut faire des vidéos, des réseaux sociaux entièrement dédiés à des vidéos générées par IA qui vont capter l'attention de tout un chacun ? Enfin, il y a vraiment des arbitrages sociétaux. Ça demande du temps, de la maturation, et ce temps-là qu'on n'a pas accordé dans les précédentes ruptures technologiques, là, sur une rupture telle que l'IA, il faudrait vraiment, pour le coup, se poser, prendre le temps et discuter.
Fanny Lopez, vous voulez réagir là-dessus ?
Oui, tout à fait. Non, je pense qu'en effet, hein, la grande question, c'est quels sont nos besoins et quel système numérique est désirable, en sachant que plusieurs systèmes techniques numériques sont possibles. Il y a plusieurs architectures réseaux possibles. Si on pense, en effet, plutôt sobriété énergétique, commun numérique, data center public, logiciel libre, etc., on n'est pas du tout face à la même architecture, et ouais. C'est aussi peut-être à ça qu'il faut se confronter. Et d'ailleurs, l'ADEME a livré un très beau rapport qui est sorti récemment dans le cadre des scénarios de 2050.
Absolument. Avec donc différents scénarios, on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez. Ouais. Fanny Lopez, puisque vous êtes spécialisée justement dans l'architecture, hein, de ces outils technologiques, ces bâtiments-là de data center, ils sont très massifs, ils sont peu perméables, et donc ils vont vraiment transformer durablement les paysages avec une artificialisation assez discrète mais très rapide au nom du numérique.
En effet, hein, on voit bien que le déploiement de ces objets, de cette industrie, transforme, impacte lourdement les territoires. On a des objets, des bâtiments qui sont d'échelles très différentes, mais qui changent, hein, le profil systématiquement des territoires dans lesquels ils s'implantent et qui ont aussi des répercussions. C'est-à-dire, quand je disais tout à l'heure, derrière le numérique, on a le double du numérique, c'est l'infrastructure électrique. Bah aussi derrière, c'est une architecture réseau, la démultiplication de postes sources, parce que parfois, les opérateurs de data centers qui ont des moyens capitalistiques immenses, eh bien, vont construire eux-mêmes leurs propres postes sources, leur réseau de fibres noires également, puisque peut-être que les opérateurs publics ne vont pas aller suffisamment vite. Donc il y a une sorte de redondance infrastructurelle, d'équipement du territoire auquel cette industrie participe assez profondément.
En juin dernier, on apprenait que Google avait choisi la commune de Châteauroux pour construire son tout premier data center en France. On va écouter le maire de la ville, Gilles Avroux, c'était en juillet dernier dans C'est dans l'air.
Alors aujourd'hui, la volonté avec Google, depuis qu'on travaille avec eux sur ce projet, c'est justement de travailler tout l'aspect environnemental. On sait qu'un data center produit de la chaleur. Nous, c'est quelque chose qui nous intéresse parce qu'on va pouvoir la récupérer et alimenter les autres entreprises de la zone d'activité. Donc ça a vraiment un aspect économique intéressant pour le territoire. Et puis effectivement, il y a ce souci, cette préoccupation de refroidir le lieu de stockage, donc le data center. Là-dessus, Google a déjà aujourd'hui des expérimentations à l'étranger, dans d'autres pays, où le refroidissement se fait sans eau. Ça se fait uniquement par de l'air, ce qu'on appelle du free cooling.
Gilles Avroux, donc le maire de Châteauroux, et dès l'annonce d'ailleurs de ce projet de data center à Châteauroux, les premières oppositions se faisaient entendre. Erwan Manac, est-ce que, pour parler de la question de la chaleur récupérée, est-ce que ces data centers récupèrent réellement la chaleur pour chauffer d'autres infrastructures ?
Alors, il y a beaucoup de communication autour d'un certain nombre d'exemples. Je pense notamment à la piscine, je crois, de Saint-Denis, qui est aussi chauffée grâce à un data center. Mais malheureusement, ces exemples-là, ils cachent la forêt d'une quasi-totalité des data centers qui ne récupèrent pas cette chaleur. Pour plusieurs raisons, parce que d'une part, c'est pas très intéressant en termes financiers de mettre en place ces systèmes-là. Souvent, on connaît quand même un peu à la va-vite les data centers. Or, récupérer la chaleur, c'est un processus qui est compliqué.
Ouais.
Il faut faire circuler l'eau dans des réseaux de chauffage de ville. Il faut souvent un peu la rehausser en température. Donc, il y a une petite centrale. Souvent, c'est pas du tout pris en compte au démarrage. Sachant que les data centers, une personne que j'ai interviewée, j'ai plus son nom, me disait c'est l'infrastructure la plus coûteuse au monde. Donc récupérer un peu d'eau chaude, ça n'intéresse pas les industriels.
Donc la valorisation thermique, on s'en fiche un petit peu, même si c'est souvent ce qui est avancé, hein, pour parler de l'aspect écologique des data centers.
Voilà, à ce stade, l'intérêt, on perçoit que les industriels, l'intérêt qu'ils ont, c'est communicationnel, c'est un peu de marketing sur ça. En tout cas, les obligations légales ne sont pas du tout suffisantes pour obliger les porteurs de projets à récupérer la chaleur fatale. Et c'est l'autorité environnementale d'Île-de-France qui avait fait une estimation. Si, en prenant les projets qui étaient actuellement, enfin les data centers en Île-de-France et les projets qui étaient dans les cartons, c'était à peu près 1 million de logements qu'on aurait pu chauffer avec cette chaleur. Dans une perspective de transition énergétique, encore une fois, où l'énergie va être rare et chère, c'est crucial.
Fanny Lopez, comment vous réagissez quand vous entendez le maire de Châteauroux, là, qui a l'air très heureux finalement que Google l'accompagne dans l'installation de ce data center? Qu'est-ce que ça vous inspire?
Oui, puis ce qui est mis en avant aussi souvent, hein, c'est le fait, et on peut dire que c'est vrai d'une certaine façon, hein, que les data centers sont des sortes de cocons technologiques super optimisés. Donc il y a tout ce discours environnemental, entre guillemets, sur le fait qu'ils vont consommer une électricité bas carbone, que l'ensemble des infrastructures sont très contrôlées. Enfin voilà, cette optimisation est souvent mise en avant. Donc ça, pourquoi pas, mais il se trouve en effet que la démultiplication crée des impact majeur, et je veux bien juste dire un mot aussi sur la récupération de chaleur. En effet, c'est assez rare. Peut-être citer l'exemple, mais c'est Stockholm, mais c'est très particulier parce que c'est un des plus vieux réseaux de chaleur du monde. Hein. À Stockholm, on avait étudié avec Cécile Diguet, ils ont fait un programme de parc, hein, le Stockholm Data Park Programme, dans lequel les data centers sont invités à s'installer. Donc c'est une sorte de programme public-privé lancé par la ville de Stockholm, qui tente de concilier planification et maîtrise de l'énergie, c'est pas souvent évident, hein. Et donc, il y a de l'électricité, énergie renouvelable à tarif négocié, un raccordement du bâtiment à la fibre, l'utilisation gratuite du réseau de froid de la ville, et en échange, le centre données contribue au système énergétique via la récupération de la chaleur. Donc il y a quelques exemples comme ça à l'échelle internationale. Celui-ci est assez intéressant parce que c'est un projet municipal, public, etc. Mais sinon, c'est très difficile. Et puis c'est aussi la question des retours sur investissement. Un réseau de chaleur, on est sur du 20 ans, 30 ans, et parfois les opérateurs de data center ne souhaitent pas s'engager sur des périodes aussi longues.
Fanny Lopez, Erwan Manac, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette discussion, et puis vous répondrez aux messages qui arrivent pour vous sur franceinter.fr.
La Terre au carré, Mathieu Vidard sur France Inter.
Pour les vidéos, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu vérifies, tout est parti dans l'iCloud et ça dépasse les compétences de Dieu. Vos vidéos diaboliques sont parties en enfer. C'est-à-dire qu'elles sont dans un data center hyper sécurisé et lointain. Je peux éventuellement essayer d'identifier, mais dans ces trucs-là, Dieu a trouvé plus fort que lui. L'intelligence artificielle. Ils sont en train de la gaver de données.
Extrait du film Effacer l'historique de Gustave Kerven et Benoît Delépine avec Bouly Lamers. C'était en 2020. On parle des data centers, des centres de données, pour parler en bon français, avec Fanny Lopez, historienne de l'architecture et des techniques, Erwan Menak, journaliste à Reporter. Est-ce que ces data centers, c'est forcément quelque chose qui est rejeté par les communes écolos en France, Erwan Menak?
On a eu un exemple récent à Bordeaux, notamment d'un centre de données qui a été avec un discours un peu contradictoire. Bon, c'est pas à moi de juger, mais qui dit, qui me semble être au diapason de ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'on n'a pas de prise. On peut être critique, on a l'impression qu'on peut avoir chacun un avis personnel sur tout ça, mais qu'on n'a aucune prise sur les grandes tendances. Et c'est ce qu'il faut. C'est une idée à laquelle il faut urgemment répondre. Si ce sont des choix politiques, démocratiques, très concrets, très physiques, qui sont en train d'être faits en ce moment, sous nos yeux, et il faut d'urgence les remettre sur la table citoyenne.
Qu'est-ce que vous en pensez, Fanny Lopez, la mairie écologiste de Bordeaux, qui soutient ce projet assez important, quand même, 20 hectares, qui regroupe 5 data centers d'une puissance de calcul de 50 mégawatts chacun. Ça représente 80% des capacités du site pour entraîner des modèles et supporter les usages de l'IA. Ce serait destiné à ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, les communes aussi parfois ont du mal à se positionner, ont pas forcément parfois, enfin l'ensemble des outils, à savoir ce que ça va consommer exactement. Enfin, on a eu des exemples, je pense à l'Île-de-France, mais ça remonte, c'était dans les années 2010 où certains opérateurs de data centers qui sont arrivés, Interxion, Digital Reality, les communes ont mis du temps à identifier le projet. On a d'autres communes qui peuvent être moteurs et je vous parle ici depuis Quimper. Où la communauté d'agglomération Quimper-Bretagne-Occidentale a signé avec Action Infrastructure, je crois, une délégation de services publics pour la construction, la commercialisation, l'exploitation d'un data center plutôt régional, donc création d'une boucle de fibre, et puis d'un opérateur de stockage pour les entreprises et les administrations du territoire. Donc on voit aussi qu'on est face à des modèles très différents. Et en effet, les communes ne se positionnent pas de la même façon, pour peu qu'elles aient l'ensemble des billes, aussi pour mesurer l'impact sur le territoire. Et j'aime bien souvent rappeler le petit exemple de Marseille. Alors ça remonte un peu, mais où le grand opérateur de data center avait dû rendre, entre guillemets, à la municipalité 7 mégawatts au poste source, puisque cela manquait pour l'alimentation des bus électriques.
Oui. Erwan Manac, en pleine campagne électorale, quand on annonce justement la volonté d'implanter une infrastructure assez importante de data center, pour une municipalité écologiste, en tout cas, c'est assez ambitieux, en tout cas, non ?
Oui, je pense que c'est un cas qui est intéressant parce qu'on est au tout début justement de ce sujet-là et dont il faut pour nous faire beaucoup l'information et pour les que ce soit les ONG, les réseaux militants, les citoyens, etc. Faire aussi leur travail et pour les politiques de s'en emparer et des alternatives, il en existe des contre-modèles, il en existe. On pourra reparler des scénarios notamment de l'ADEME.
Oui.
Beaucoup de gens demandent un moratoire.
Ouais.
D'une part, beaucoup de gens demandent un moratoire, c'est pas du tout une idée farfelue, c'est-à-dire faire une pause, attendons, réfléchissons. Et l'ADEME a fait plusieurs scénarios dont l'ADEME, comme tous les autres, disent ce n'est pas soutenable. La trajectoire dans laquelle on s'inscrit n'est pas soutenable. Donc, en fait, être raisonnable, ce serait faire une pause.
Donc, c'est ça, mais une fois qu'on a dit ça, c'est quoi les recommandations, justement?
Et parmi les scénarios, il y a le scénario donc, frugal, d'une numérisation raisonnée, avec des choses très concrètes, pour la vie courante, des solutions basse technologie, qui peuvent s'appeler des êtres humains, par exemple, pour des guichets, des services publics, par exemple. C'est un autre gros mot, service public bien commun.
Oui.
Et puis, faire des choix. En fait, l'IA, elle peut être puissante pour la santé, elle peut être dans certains domaines. Il faut prioriser. Est-ce qu'on a besoin d'IA génératives qui vont, comme je disais, faire des vidéos pour les réseaux sociaux? Ça peut être arbitré. C'est notamment ce que sous-entend l'ADEME dans son scénario. Fléchage donc de l'IA uniquement sur les usages à haute valeur ajoutée sociale et environnementale, alternative, rematérialisation des services et réduction des écrans publicitaires par exemple, ou de la place des réseaux sociaux. Ça rejoint aussi des enjeux en fait sociétaux.
Fanny Lopez, vous avez parlé tout à l'heure, j'ai entendu un terme, ébriété numérique, vous l'avez bien employé, il me semble.
Oui, tout à fait.
Ah, vous employez un mot assez fort quand même, ébriété numérique.
Alors ça, c'est aussi pour faire référence à mes camarades de Virage Énergie, hein, qui utilisent beaucoup ce terme et qui est une association qui défend la sobriété énergétique pour faire face à cette ébriété numérique, puisque en effet, hein, je crois que beaucoup de chiffres hein, montrent que la situation n'est pas soutenable. Hein, donc moi, je dirais aussi, oui, limitation, régulation, moratoire, et puis ouvrir un débat, puisque ce sont des sujets passionnants, je pense, qui intéressent largement la population. On a des recherches, des travaux passionnants qui sont faits sur ces sujets depuis de nombreuses années. Donc comment s'en ressaisir, faire que ça devienne aussi un débat public, hein, quel type de numérique on veut, l'IA pourquoi, quels usages, à quoi on réserve l'intelligence artificielle, et puis voilà, discuter aussi de l'architecture réseau. Hein. Moi je dis souvent, changer de société c'est changer d'infrastructure. Il y a vraiment cette idée que ben, voilà, la forme, l'échelle de l'infrastructure induit des modes de consommation, un rapport à la ressource qui est très spécifique, et c'est bien de ça dont il faut parler, et ce que fait très bien ce S1 de l'ADEME.
Et il y a des pays européens qui ont déjà freiné des projets, Fanny Lopez, très vite.
Oui, alors les Pays-Bas, hein, y a une loi qui est passée l'année dernière suspend tout simplement l'installation de ouais. data centers de très très grande échelle. Stockholm aussi s'est positionné. Donc oui, il y a des moratoires qui existent et il y a des suspensions qui existent.
Allez, on passe aux questions. Et pour réagir à ce dossier sur les data centers, les centres de données, on va écouter un premier message vocal.
C'est Dominique Le Mans dans la Sarthe. Serions-nous pas responsables de ces créations de data en gardant toutes ces photos inutiles, tous ces messages qui servent à rien, je prends le pain, tu es où, etc. Est-ce qu'il ne serait pas important d'éduquer les gens à supprimer tout ce qui est inutile? Merci et bravo pour cette émission.
Erwan Manac, est-ce qu'il faut faire le ménage un petit peu alors?
Alors oui, moi mon avis personnel, il est que le problème il est pas individuel, mais tous les sujets sur ces questions-là reviennent à cette question-là qui est fondamentale. C'est le seul geste individuel utile, et c'est le vote dans ces grands enjeux. Les décisions de raccorder des data centers à 1 gigawatt, c'est pas à l'échelle individuelle qu'on peut, en supprimant des mails, avoir un impact dessus. C'est en s'investissant dans la vie citoyenne, comme on l'a un peu martelé tout le long de cette émission.
Ouais, on va passer à une question de Mélanie. Data center, justement, c'est sur le terme utilisé, centre de données. En quoi utiliser le terme data center est-il plus légitime? Est-ce que ce choix reflète la domination culturelle qui est un puissant outil au service des GAFAM? C'est un souci que vous avez, vous, à reporter, d'employer le terme plutôt en français, à One Manac?
Oui, alors bah c'est sûr que bon, c'est les éditeurs des articles qui veillent à ça, c'est important, et c'est vrai que bon, au-delà de l'aspect sémantique et de lutter contre les anglicismes, on peut faire le parallèle avec la force de frappe qu'ont ces entreprises privées pour mettre la main sur le régime énergétique. Il y a des travaux notamment de l'économiste Lucas Chancel qui a montré à quel point qui détient l'énergie détient un pouvoir colossal sur la société. D'une part parce qu'il détient sa puissance, mais aussi parce qu'il peut dicter ses usages. Et il faut pas perdre de l'esprit que ce mouvement très puissant, il est aujourd'hui orchestré par des entreprises privées à but lucratif, quasiment toutes américaines, parce que c'est le seul qui a la puissance financière pour le financer.
Fanny Lopez, justement, en ce sens, un message de Max qui nous dit « Si Google s'installe en France, eh bien le problème est double, écologie et souveraineté numérique. Si l'État installe son data center pour ne plus utiliser les services de Google ou Amazon, alors il y a une partie du problème qui est résolue. » Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Oui, en effet, il y a les GAFAM hein, sont en train de s'installer en France, en Europe. C'est pour ça que aujourd'hui l'Union européenne tente, mais avec, je pense, un certain nombre de difficultés, peut-être un certain retard, hein, d'essayer de réglementer, hein, d'essayer de poser un cadre réglementaire de plus en plus structuré. Il y a quelques textes qui essaient d'encadrer des directives, mais il y a eu les règlements sur la RGPD, les données personnelles, mais alors on va pas dire c'est trop tard, mais en fait il faudrait une volonté politique extrêmement forte pour contrer cette situation.
Allez, nous avons un autre message vocal à vous faire entendre.
Bonjour Mathieu, vous dites ces projets sont stratégiques au niveau du pays, mais en quoi sont-ils stratégiques?
Erwan Manac, vous voulez répondre à cet auditeur?
L'enjeu, enfin, tel que c'est présenté, il y a un enjeu de souveraineté de la France d'héberger chez nous les données. On le voit avec l'Amérique de Trump, où enfin, c'est là que se situent la plupart des data centers. C'est plus sûr de les avoir chez nous, d'une part. Donc il y a, voilà, il y a un enjeu de souveraineté sur les données. Il y a beaucoup d'autres enjeux. Voilà.
On va terminer sur juste une question de Myriam qui nous demande le site français comparia.beta.gouv qui permet de connaître le poids d'une requête selon l'IA choisie. Est-ce que c'est utile ou pas ?
Moi, j'ai pas la compétence pour vraiment répondre à cette question. J'ai lu des analyses critiques sur cet outil, comme quoi on est encore sur des défauts de transparence sur ce que communiquent les constructeurs.
Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Je renvoie sur reporter.net, le quotidien de l'écologie, si on veut découvrir la carte, justement, des projets autour des data centers, et puis un certain nombre d'articles que vous avez consacrés à la question. Et puis, Fanny Lopez, je renvoie sur un des derniers ouvrages que vous avez signé avec Cécile Diguet. Ça s'appelle « Sous le feu numérique, spatialité et énergie des data centers » chez Métis Press. Merci aux équipes de Quimper qui nous ont permis d'assurer ce duplex. Merci à Emma Bouvier qui a préparé ce dossier. Noé Chaban à la technique.